prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le temple vivant de Dieu.
Bonsoir. Je crois qu'on est tous un petit peu ennuyés avec notre gorge. Enfin, on va essayer de parler français quand même. Voilà, je vous propose une très courte lecture dans l'évangile de Matthieu, si vous voulez bien suivre, au chapitre 12, s'il vous plaît. Alors, évangile de Matthieu, chapitre 12, et nous allons faire simplement la lecture de cette portion de phrase au verset 6. 12, verset 6, c'est Jésus qui parle et il dit ceci: Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Voilà. Il y a ici quelque chose ou quelqu'un de plus grand que le temple. J'aimerais ce soir prendre en considération ce que peut représenter cette parole que Jésus a laissée à ses auditeurs du moment, dans cet évangile de Matthieu. Et j'aimerais passer en revue brièvement les temples dans la vie de Jésus. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont surprenantes, parce que finalement, on connaît l'histoire de ces lieux d'adoration de Dieu, ce lieu d'adoration. Vous savez que tout a commencé avec des autels dans l'histoire des patriarches, des autels où il y avait des libations de prières, d'adoration, d'actions de grâce par tous ces hommes de l'Antiquité, ces hommes de foi. Je pense à Abraham, à Isaac, à Jacob, et puis les uns et les autres. Ils n'avaient que cela pour se mettre en relation avec ce Dieu de la création. Et puis ensuite, lorsque le peuple est sorti du pays d'Égypte, il a eu l'ordonnance, il a eu l'ordre de la part de Dieu de construire finalement une tente que l'on a appelée la tente d'assignation, avec au cœur même de cette tente l'arche de l'Alliance. Et puis le temps a passé et voilà qu'un homme de Dieu authentique, véritable, a eu à cœur, alors qu'il habitait lui dans un palais, de dire: mais comment se fait-il que mon Dieu réside dans une simple tente, et que moi, le roi d'Israël, vous avez bien compris, c'est David, moi je réside dans une maison somptueuse. Alors il a le projet de construire le temple. Dieu va l'arrêter. Il va lui dire: ce ne sera pas toi parce que tu es un homme de guerre, mais ça sera ton fils. Et nous voilà à découvrir ce temple magnifique qui a été édifié par le roi Salomon, avec une grande magnificence, une grande splendeur. Et nous savons que ce temple à Jérusalem a été véritablement la gloire d'Israël. Et Dieu avait dit: c'est ici, c'est dans ce lieu que vous me rencontrerez. Et il a donné toutes sortes de raisons. Il dira: lorsque vous connaîtrez la disette, la famine, lorsque vous connaîtrez la guerre, c'est dans ce lieu que vous viendrez me prier, et moi je vous exaucerai des cieux. Alors ce temple, il a subsisté pendant un certain temps, et ensuite il a été détruit, il a été rasé par les armées du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Quand il est venu, il s'est emparé de la ville de Jérusalem, et il a emmené tout le peuple en déportation, en rayant de la carte ce temple magnifique qui avait été construit bien longtemps auparavant par le roi, tout simplement Salomon. Et puis au retour de l'exil, lorsque les Israélites sont revenus en Israël, Ils ont retrouvé Jérusalem sous l'instigation d'hommes remarquables tels que Néhémie, Esdras. Eh bien, ils ont tout à nouveau reconstruit le temple. Le lieu de rencontre, le lieu de communion avait été rétabli. Un temple moins beau, moins somptueux que le précédent. Et puis, en s'approchant de l'Évangile, un roi, qui n'était certainement pas le meilleur, Hérode le Grand, a voulu embellir ce deuxième temple. Et nous voyons que ça a été quelque chose aussi qui faisait l'admiration. Au temps de Jésus, eh bien, des habitants de Jérusalem, de tous ces hommes, tous ces gens qui venaient du monde entier à Jérusalem et qui admiraient la belle construction qui avait été rénovée par le roi Hérode. Et puis, on sait ce qui s'est passé, c'est qu'après la crucifixion de Jésus, une quarantaine d'années après, en l'an 70, eh bien, les armées romaines ont investi la Palestine et les Juifs se sont révoltés contre les Romains. Et là, une nouvelle fois, le temple de Jérusalem a été rasé. Mais alors, selon les paroles du prophète, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout a été passé sous le soc de la charrue. Et ce temple, jusqu'à nos jours, n'a jamais été reconstruit. Si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, vous verrez les fondements que l'on appelle le mur des Lamentations. Au-dessus, eh bien, ce sont les mosquées de l'islam, El Aqsa, et puis le temple, enfin pas le temple, mais la mosquée du Dôme. Et puis voilà, les choses en sont encore à ce point aujourd'hui. Donc le temple n'a jamais été reconstruit. Mais il est intervenu quelque chose d'assez particulier, c'est que à la croisée des sociétés, des civilisations, des temps, des siècles, eh bien voilà que Dieu a envoyé Jésus, le Messie pour les Juifs et le Sauveur. Et nous allons voir que ces temples de pierre, ces temples faits d'or et d'argent, eh bien là n'avaient plus lieu d'exister, puisque le véritable temple de Dieu, nous allons le découvrir ensemble à travers quelques notes, quelques faits marquants de l'histoire de la vie de Jésus. Le premier temple, Jésus l'a connu et il était loin de ressembler à tout le faste que peut avoir un palais. Ce premier temple, figurez-vous, il n'était pas à Jérusalem, il était à Bethléem. Eh oui, vous connaissez, vous savez ce que je veux dire. Et il n'avait rien à voir avec les palais des rois, à travers tout ce que nous pouvons imaginer de ce que les hommes élevés en dignité se plaisent soit à faire construire et à habiter. Celui-là, pour celui qui est appelé le roi des rois, eh bien son temple, c'était tout simplement une étable. Une étable malodorante. Une étable où on ne mettait que des animaux dedans. Mais comme on avait refusé l'entrée des parents de Jésus dans les hôtelleries de cette ville de Bethléem, il ne restait plus, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller se réfugier tout simplement dans cette grange où là, eh bien, on en connaît la suite, hein, puisque c'est là où Jésus tout simplement est né. Alors, j'aimerais à l'aide de quelques textes, voir comment les choses se sont articulées autour de ces différents temples où nous pourrions dire que Jésus a habité. Et nous voyons que dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 11, permettez-moi de rappeler un peu cette histoire, parce que la voix, elle vient du ciel. Et il est dit ceci, c'est aujourd'hui, verset 11, chapitre 2, Luc, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voilà le temple qui accueille le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, on comprend que les Juifs, connaissant l'Écriture sainte, mais ne faisant pas attention aux détails, ont été complètement et totalement stupéfaits, parce que le Messie, annoncé depuis des siècles et des siècles par les prophètes, par la loi de Dieu, eh bien, on s'aperçoit, et ils se sont aperçus, que, contrairement à ce qu'ils pensaient, parce qu'ils étaient certainement très fermes dans leur conviction, que le Messie d'Israël habiterait, viendrait à Jérusalem et dans un palais. Or, nous voyons et nous l'avons lu, que ça ne ressemble en rien, là où Jésus est né, d'un palais. Ça, c'est le premier temple. C'est le premier temple dans lequel il a fait son apparition. Donc, le temple de Dieu, le temple vivant de Dieu au milieu des hommes, son existence a commencé dans ces conditions. Vous le reconnaîtrez, un petit enfant emmailloté, tout simplement, et il sera dans une mangeoire d'animaux. Alors on est loin de tout ce que on pouvait s'imaginer à cette époque. Et puis voilà que Jésus, à l'âge de 12 ans, va faire son entrée dans le temple de Jérusalem. Il a 12 ans, c'est un adolescent, et c'est lui qui dira plus tard « Le zèle de ta maison me dévore ». Lui qui voulait que la maison de Dieu soit une maison de prière, et vous connaissez, je pense, je passe sur un petit peu tous les épisodes, qui ont marqué, qui ont lié Jésus avec le temple de Jérusalem, et à ce titre, justement, eh bien voilà comment les choses nous sont présentées. Toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 46, écoutez bien. Vous savez que les Juifs montaient une fois par an à Jérusalem pour faire leur dévotion dans la ville du grand roi, adorer Dieu au temple. C'était la grande fête. Et puis voilà que les parents de Jésus sont, selon l'expression, montés à Jérusalem et ils sont repartis. Mais ils sont repartis sans Jésus. Ils ne se sont pas aperçus que leur enfant, eh bien, n'était pas avec eux. Alors ils ont fait une journée, deux jours de marche, et là ils se sont interrogés, ils nous ont dit, mais où est Jésus? Et le voilà qu'ils vont faire demi-tour, et ils vont retourner à Jérusalem, ils vont questionner, ils vont faire toute la ville, et à un moment donné, il nous est dit qu'au bout de trois jours, ils trouvèrent Jésus dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère, donc Marie, lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur a répondu cette parole, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Voilà, ça c'était quelque chose d'étonnant pour un enfant, où bien, l'adolescence là, marque finalement la jeune vie de Jésus, et contrairement peut-être à tous ses autres camarades qui remontaient dans leur village après la fête, certainement tout joyeux et voilà, comme on peut se l'imaginer, lui était resté tout simplement, avait en quelque sorte, eh bien là, laissé ses parents partir, et lui-même, pendant trois jours, voire peut-être même davantage, était assis au milieu du temple. Il était chez lui, hein. Ouais. Cette entrée de Jésus enfant dans le temple de Jérusalem est la marque qu'il était chez lui. Parce que c'est dans cette conception que le temple de Dieu, c'est là où on rencontre Dieu, c'est là où on adore Dieu, c'est là où on le prie, et c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Et cet enfant, Jésus, était resté certainement pour, eh bien là, s'entretenir des affaires de son père. Alors qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il parlait avec les sages, il parlait avec les érudits du temps, il parlait avec les scribes, avec tous ces hommes qui avaient une grande érudition sur la loi de Moïse, sur la parole de Dieu, sur l'histoire d'Israël. Et il était là, il écoutait, il posait des questions, il répondait également à l'étonnement de ces hommes qui, en effet, certainement n'en croyaient pas leurs oreilles. Et il répondra tout simplement à sa mère qui lui fait cette remarque, « Mais pourquoi as-tu agi ainsi? Pourquoi n'es-tu pas rentré avec nous alors que nous remontions dans notre maison à Nazareth ?» Alors il dira, mais vous ne savez pas, mais pourquoi me cherchiez-vous? J'étais à la bonne place, j'étais là où il fallait, j'étais dans le temple, parce que vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Ce qui, 18 ans après cet événement, va véritablement introduire Jésus dans son apostolat, répondant à l'appel de Dieu et à sa vocation de Messie et de sauveur de l'humanité. Ça nous amène, avant d'en arriver à sa vocation, ça nous amène, eh bien, à une introduction, à introduire Jésus précisément dans son apostolat, dans sa mission du salut des hommes. Et ce troisième temple, nous le trouvons dans la nature. Vous vous souvenez, le jour de son baptême, alors que Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser parce qu'il était sans péché, puisque Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Lui, il était là, il est venu. Et malgré les admonestations de Jean-Baptiste qui lui disait « ce n'est pas pour toi », Jésus dira « mais laissez faire ce qui est convenable d'accomplir dans la pensée et dans la volonté de mon Père ». Alors Jésus va se faire baptiser. Et il s'est passé quelque chose de tout à fait particulier pour montrer que le temple dont il est question, c'est un temple à ciel ouvert, mais le ciel s'ouvre. Le ciel traduit et produit une vision qui est celle d'une colombe. Et il y a un bruit, il y a une voix qui descend des cieux, ce qui nous amène justement dans Luc au chapitre 3 et au verset 21. Je lis ce passage. Il nous est dit que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et nous voyons que là, eh bien, c'est l'assentiment. Dieu scelle, confirme, et marque, tout simplement, le début du ministère de Jésus qui durera 3 ans et quelques et qui fera que tout ce que Jésus va accomplir, il va l'accomplir pour ce Dieu qui vient dans son temple, ce Dieu qui vient montrer quel est le véritable temple, qui n'est plus un temple fait de main d'homme, qui n'est pas et qui ne procède pas d'une intelligence humaine, mais c'est un temple maintenant qui va prendre la forme, ou plutôt un temple invisible, qui ne va pas se matérialiser, mais qui va être un temple spirituel. Quand nous lisons l'Ancien Testament, toutes les figures, toute la représentation, toute la construction, toute l'élaboration du temple, soit de la tente d'assignation du temps de Moïse, ou alors, en ce qui concerne Salomon, les moindres détails nous montrent que tout cela était quelque chose de provisoire. Ce temple fait pour les hommes, matériel, ce temple qui a une forme et qui est détaillé dans les moindres aspects, eh bien maintenant va véritablement trouver une autre dimension. C'est une dimension spirituelle, une dimension invisible, et nous allons le découvrir par la suite. Au moment où ce temple, environné de cette nature, qui proclame la grandeur de la création de Dieu, au Jourdain, eh bien, nous voyons qu'il y a l'assentiment de Dieu, la confirmation de Dieu sur celui qui est le temple vivant de Dieu, et cette voix qui dit « Mais celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans un autre texte, il nous est dit davantage, parce que Jésus est le Logos, il est la parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le. Et puis nous en arrivons à un autre aspect des choses, toujours dans cette dimension maintenant invisible. Le visible a disparu, c'est l'invisible qui prédomine, puisque si nous voulons rentrer dans le temple de Dieu, comme Jésus le dira et le proclamera à la Samaritaine, ce n'est pas à Jérusalem ou ce n'est pas ici que vous adorerez le Père, mais vous adorerez le Père en esprit, en vérité. Ça c'est le temple nouveau. Ce temple, curieusement, eh bien, à cause de Jésus, à cause de cette invisibilité, mais compensée par la foi, par ce que Dieu nous a donné comme un trésor d'une valeur inouïe. Parce que la foi, je voudrais quand même le préciser, c'est croire ce qu'on ne voit pas. C'est avoir la démonstration de choses qui finalement, eh bien, ne se perçoivent pas avec nos yeux. Et nous en arrivons maintenant à ce quatrième temple, et curieusement, et vous ne serez pas surpris, c'est son Église. Ouais. L'Église de Jésus-Christ, les hommes et les femmes, et écoutez bien, tous ces hommes et ces femmes qui ont été appelés, élus par le Seigneur, appelés, choisis, établis, en passant par la repentance, qui ont fait acte de conversion à Jésus-Christ, le prenant comme sauveur et Seigneur, rempli de l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance, alors à ce moment-là, ces hommes et ces femmes, par millions dans le monde entier, hier comme aujourd'hui, cette succession d'êtres humains qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et devenu le Seigneur de leur existence, ça s'appelle tout simplement l'Église vivante, hein, qui est le temple de Dieu. Écoutez, l'apôtre Paul le dira sous ses paroles, et il l'exprimera d'une manière très claire pour que nous comprenions finalement qui nous sommes les uns et les autres. Alors, dans son sens, l'Église est universelle. Oui, dans son sens le plus large, le plus général. Elle est universelle. Et écoutez ce que nous dit donc Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6, et au verset 16, il nous rappelle tout simplement, alors 6, 16, voilà. Il dira, mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Là, il y a une séparation radicale. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de confusion possible. Mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Et Paul ajoutera ceci, car nous sommes, nous les croyants, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est le nouveau temple. Ce n'est pas un temple vers lequel nous montons, comme très souvent les Juifs disaient dans l'ancienne alliance, nous montons à Jérusalem. Mais là, même si nous disions nous montons à l'Église, ça ne voudrait rien dire. Puisque nous sommes nous-mêmes l'Église vivante de Christ et nous sommes le temple de Dieu. Imaginez-vous que les choses ont véritablement changé. Et je vous dirais également que dans l'édification de ce temple, que nous sommes les uns et les autres d'une manière générale, eh bien c'est que Dieu a donné aussi dans les moindres détails ce que doit être un temple, dans sa sainteté, dans sa pureté, dans ce qu'il peut représenter, dans le témoignage qu'il donne, parce que le temple de Jérusalem, c'était un témoignage pour les nations. Hein. La foi des Juifs était un témoignage pour les peuples du monde entier. Eh bien, l'Église est aussi un témoignage. Nous représentons, nous sommes les ambassadeurs d'un roi dont le royaume, eh bien, s'appelle le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. Et dans les moindres détails, le travail est fait. Il est fait à l'intérieur de nous-mêmes, pas à l'extérieur, parce qu'il n'y a rien de changé et qui nous différencierait de tous nos semblables. Mais à l'intérieur, ce sont des hommes nouveaux. Nous sommes des hommes nouveaux. Nous avons demandé pardon à Dieu. Il a transformé notre vie. Et tous les jours, nous sommes à la ressemblance de celui qui est le vrai temple, rendu semblable à Christ, dans ses qualités, dans les fruits que nous pouvons porter. C'est le plus beau temple. Ça a commencé par un temple matériel et maintenant, nous nous préparons, et vous allez le voir à la fin, le temple, il sera fini. Et il aboutira non pas sur la terre, mais dans le ciel. Écoutez, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, mais j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça nous rappelle cette belle parole que Jésus nous laisse, mais que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, parce que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une assurance pour notre vie, une assurance pour notre foi. Nous sommes le temple de Dieu. C'est une belle parole. C'est une promesse extraordinaire, c'est même pas une promesse, c'est une réalisation maintenant. Alors, maintenant tout dépend comment nous apprécions et comment nous considérons d'être le temple de Dieu. Mais les choses vont beaucoup plus loin et beaucoup plus précises, c'est que je vous dirais que maintenant chaque chrétien est devenu, dans son corps, le temple du Saint-Esprit. Ouais. Vous savez que dans l'ancienne alliance, le temple à Jérusalem, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Voilà, et dans le lieu très saint, il n'y avait que le sacrificateur une fois par an qui pouvait rentrer, parce qu'on ne s'approche pas de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chacun d'entre nous, chaque chrétien, confessant la foi en Jésus-Christ, par les expériences qu'il a pu faire, de cette relation et de cette communion et du don de sa vie à Christ, alors à ce moment-là, eh bien, chaque chrétien devient dans son corps, et on pourrait peut-être y associer tout notre être, mais dans son corps, c'est écrit. Alors nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, le lieu très saint, le Saint des Saints. Et aujourd'hui, notre relation, eh bien, elle est ouverte, le voile s'est déchiré. Le chemin a été inauguré, une voie nouvelle, qui fait que, parce que le Saint-Esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais c'est à chaque instant, chaque jour, chaque moment que nous avons cette communion. Nous n'avons pas besoin de franchir le parvis, nous n'avons pas besoin de rentrer dans le lieu saint pour rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, nous sommes dans le lieu très saint par Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que chaque chrétien est le temple de l'Esprit, le temple du Saint-Esprit. Paul, qui était certainement bien avisé de toutes ces questions, eh bien, l'écrira dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand il nous laisse entendre cette parole. 1 Corinthiens, donc chapitre 6, verset 16, que je retrouve brièvement, simplement. Mais comme il n'y a pas qu'une page à ma Bible, c'est ce qui pose quelquefois des problèmes. Mais vous le savez, ça. Alors, il est dit, alors c'est bien ça, 6, 16. Voilà. Ne savez-vous pas que celui... Non, c'est un peu plus loin. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Ça va beaucoup plus loin maintenant. Quand Dieu, anciennement, rentrait dans son temple, il y avait de la fumée, il y avait toutes sortes de manifestations. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a dans notre vie, dans notre cœur, notre corps, la présence de ce Dieu qui se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez, dira Paul ? Parce que votre corps est vraiment le temple de l'Esprit de Dieu. Et vous l'avez reçu de Dieu. Alors vous n'êtes plus à vous-même, mais vous êtes à Dieu, vous appartenez au Seigneur. Parce que vous avez été racheté d'un grand prix. Et tout ça repose sur la rédemption, sur l'expiation, sur le sacrifice expiatoire de Jésus, qui nous fait que nous n'aurions jamais pu rentrer dans le temple et être même le temple, c'est inouï ça, être le temple de Dieu, si véritablement quelqu'un n'avait pas payé le prix de nos forfaits, de notre impureté, de notre iniquité, parce que nous avons été rachetés. Vous savez qu'on ne rentrait pas dans le temple de Jérusalem comme ça. Hein, c'était un sacrilège, celui qui rentrait tel qu'il était. Eh bien aujourd'hui, nous avons accès, finalement, au Saint des Saints, dans la présence de Dieu, non pas en raison de nous-mêmes, mais en raison du prix du rachat qui a été donné pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je peux dire, eh bien Seigneur, je peux venir à toi, je peux te parler, je peux te prier, je peux te rencontrer, Seigneur, parce qu'il y en a un qui a payé pour moi. C'est Christ, il m'a racheté et nous sommes justifiés. Nous sommes vus maintenant, comme nous le chantons quelquefois, eh bien revêtus d'un vêtement de justice, tout simplement. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dira Paul. Et puis, on avait commencé par une crèche, par la naissance de Jésus, et voilà que les choses se terminent par une croix. Ça, c'est un autre temple. Ce temple évoque la mort, il évoque la douleur, il évoque l'ignominie, la honte, le rejet, la souillure, tout ce que nous pouvons imaginer, dont on ne pourra pas finalement mesurer tout ce qu'il peut y avoir d'abominable sur la croix. C'est un temple, oui. Et Jésus est né pour mourir. Jésus n'est pas venu pour vivre sa vie d'homme seulement pour lui-même. Il est venu pour mourir pour des hommes condamnés à mort afin qu'ils soient absous, afin qu'ils soient pardonnés. Et là, il est monté. Souvent, les temples dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, les temples de ceci ou les temples de cela, ils étaient toujours élevés sur une colline ou sur une montagne. D'ailleurs, le temple de Jérusalem, c'est sur une colline, hein, le mont Morija. Et on s'aperçoit que la croix était justement... Oh, quel édifice! C'était vraiment sommaire, hein? Une planche de bois ou une poutre de bois à la verticale et une autre à l'horizontale. Et fixé dessus, eh bien, un homme condamné à mort. Alors ça, c'est un temple. Mais c'est aussi un trône, parce que dans le temple, il y a des trônes, ou il y a au moins un trône. Voici, il y en a un. Il y en a peut-être des trônes subalternes, même si tout le monde voudrait aller à l'essentiel et au principal. Alors Jésus, quand il a accepté la mission de Dieu, eh bien, il est rentré dans son temple. Ce temple affreux, abominable. Mais il fallait passer par là pour que nous puissions habiter les palais de grâce, les palais de la miséricorde de notre Dieu. Il fallait que Jésus vienne, rentre dans ce temple. Vous vous rendez compte un peu quelle humilité du début jusqu'à la fin, hein ? La crèche, la croix, un temple, un trône. Écoutez, Jésus choquera ses auditeurs du moment quand dans l'évangile de Jean, il dira simplement ces paroles. Oh, je crois qu'ils vont être furieux, hein, ils vont être furieux et ce sera certainement, eh bien, là, un chef d'inculpation pour condamner Jésus à mort. Écoutez bien. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, il nous est simplement rappelé cette parole au verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent à Jésus, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Voilà. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, mais il a fallu 46 ans pour rebâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Tout était déjà préparé. Le plan de Dieu était déjà mis en place, depuis toujours. Et nous voyons que tous ses adversaires sont là pour essayer de le prendre au mot, pour essayer de le confondre. Mais quel miracle fais-tu ? Et Jésus va répondre justement par cette image. Mais ils ne sont pas les uns et les autres sur la même longueur d'onde de ce que Jésus veut dire. Eux, ils sont restés dans une conception tout à fait humaine, charnelle, naturelle, alors que Jésus lève le débat beaucoup plus haut, leur dire, mais écoutez, vous en êtes là encore avec votre religion, à aller, à venir autour du temple qui ne vous apporte plus rien puisque vous n'y croyez plus. Vous ne croyez même pas la présence de celui qui y habite. Puisque vous en faites du temple, de votre Dieu, du Dieu d'Israël, et bien ce que vous en avez voulu. Vous le souillez. Vous en faites une affaire de commerce. Et ça devient abominable et odieux. Alors, quel miracle, diront-ils ? Jésus leur dit, mais détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Ça, c'est la croix. Ça, c'est la croix. De fait, les Juifs remplis de haine, remplis d'envie, remplis d'un esprit de meurtre sur la personne de Christ, alors à ce moment-là, vont se saisir de son corps, dans le jardin de Gethsémané. Et ensuite, devant une parodie de justice, un déni de justice, ils vont le traîner, ils vont l'attacher sur une croix et ils vont attendre qu'il rende le dernier soupir. Et là, ils diront, bah, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Et Jésus leur dit, mais vous détruisez ce temple et vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir que ce temple-là est indestructible, que ce temple-là demeure et il demeurera toujours. Alors en 3 jours, moi, je le relèverai. Parce qu'on connaît justement ce qui s'est passé après la crucifixion. Il y a eu la crucifixion qui a entraîné la résurrection. Pour qu'il y ait la résurrection, il fallait qu'il y ait la mort. Et ce sont eux qui ont donné la mort. Mais Dieu a rendu la vie à Christ. Et il est pour nous le prémisme finalement, eh bien, de notre propre résurrection. Nous croyons à la mort de Jésus et nous croyons que Jésus est ressuscité. Eh bien, nous croyons que nous ressusciterons avec lui. Ça, c'est les affirmations de la parole de Dieu. Et il faut être ferme dans cela, parce que ça, c'est la base, finalement, de notre foi. Alors, ils diront, dans leur incohérence et dans leur ignorance, dans leur stupidité, les Juifs diront, mais tu te rends compte, il a fallu 46 ans pour construire ce bâtiment, et toi, en 3 jours, tu le révéleras. Il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de mépris sur la personne de Jésus. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se réaliser. Parce que Jésus parlait du temple de son corps. Et regardez quelle association il peut y avoir entre le temple du corps de Jésus, crucifié et ressuscité, Et nous qui sommes devenus maintenant le temple du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Une maison spirituelle, si vous aimez mieux, comme nous dit, je crois c'est Pierre qui l'écrit, ou Jacques, peu importe. Alors un temple, un trône, une couronne, oui. Mais ce n'était pas la couronne de ceux qui habitent les temples glorieux, royaux ou impériaux, mais c'est une couronne d'épines, marquant l'humiliation. Et puis, je voudrais terminer sur cette parole, parce que je crois que c'est la perspective que nous attendons, qui est l'espérance de tous les croyants, mais qui doit être aussi l'espérance peut-être de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, parce que c'est notre véritable destination. Un jour, Jésus dira, « Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » C'est vrai, plusieurs demeures, mais il y a un temple dans le ciel. Et vous savez que ce temple, nous allons le rejoindre. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas propriétaire d'une maison sur la terre. En tous les cas, vous aurez quelque chose qui n'a rien de comparable. On va le voir. Parce qu'il y a un temple dans le ciel. C'est un temple de sainteté. C'est un temple de perfection. Dans Apocalypse, il nous est dit cette parole, chapitre 21, verset 22. Écoutez bien. Je ne vis point, c'est Jean, le visionnaire de l'Apocalypse, l'apôtre Jean. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, ainsi que Christ. Vous vous rendez compte? Je dis que c'est... Enfin, moi, je ne sais pas, quand je lis ces paroles, quand je les médite et je les partage avec vous, je me dis, mais Seigneur, qu'on est loin de ces autels des patriarches, qu'on est loin de la tente d'assignation, qu'on est loin de la splendeur matérielle et visible du temple du plus beau temple de Salomon et de ceux qui sont venus après. On est loin de tout cela. Hein. Quand Jean, là, la vision lui est donnée du ciel, le ciel ouvert, le ciel de gloire, il dit, mais je n'ai pas vu de temple dans le ciel. Oui. Et il se reprend et dit, mais car le Seigneur Tout-Puissant est son temple. C'est Dieu qui est le temple. Le temple est ainsi que l'agneau. Alors la ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour. Et il n'y aura plus, car il n'y aura plus de nuit. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge. Ça sera la sainteté. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oui. Vous savez, dans le temple, on sacrifiait, et on a sacrifié des milliers et des milliers d'agneaux. Maintenant, il est sacrifié l'agneau une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus vaut pour tout, pour notre vie, pour notre salut, pour notre éternité. Alors, à travers ce petit cheminement que nous avons fait, l'histoire du temple, l'histoire des temples, l'histoire de Jésus, de la crèche à la croix, et de la croix qui en trouve finalement la dimension de l'éternité, alors, Jésus dira, et nous revenons tout simplement à la première lecture, si vous avez peut-être oublié ce que nous avons lu, dans Matthieu au chapitre 12, il est dit ceci, « Or, Jésus dira, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » De plus grand, il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Alors, je crois que tout cela nous amène véritablement non seulement à remercier le Seigneur, à le bénir, mais à l'adorer. Et cela nous amène à pouvoir véritablement travailler dans l'œuvre de Dieu, les uns et les autres, soit par notre parole, ou soit par notre vie, pour que le temple de Dieu soit plein. Et quand nous lisons aussi les pages de l'Apocalypse, il nous est dit qu'il y aura des myriades et des myriades qui rentreront dans le temple de Dieu. Et cette entrée, Jésus nous dit « Je suis la porte ». Voilà, « Je suis la porte ». Alors que Dieu nous bénisse. Mais tout le monde peut rentrer, tout le monde peut devenir véritablement le sanctuaire de Dieu, en esprit et en vérité. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole nous montre à l'évidence qu'en effet, dans toute l'histoire humaine, l'histoire des hommes, Seigneur, qui s'est déroulée à travers des millénaires, eh bien, Seigneur, il y a en effet un aboutissement. Et un aboutissement qui est un aboutissement glorieux. Oui, Seigneur, tu as parlé aux hommes d'une manière humaine pendant un temps. Et puis ensuite, lorsque Jésus est venu, tu nous as parlé d'une manière spirituelle. Et puis, en effet, nous savons que l'aboutissement, eh bien, de ton plan se terminera tout simplement en esprit, en vérité. Et nous voulons te rendre grâce, parce que ce ne sera plus les choses, les ombres des choses à venir. Les choses seront venues, elles sont là, Seigneur, déjà maintenant. Et toute l'attente, toute l'impatience, en effet, tout le soupir de ce Seigneur que tu appelles l'Église de Dieu, c'est véritablement rentrer dans ton temple saint. Et nous te bénissons et nous te remercions. Seigneur, c'est merveilleux pour nous, mais nous voulons te faire cette prière tout simplement pour tous ceux qui ne connaissent pas, pour tous ceux qui ne savent pas, pour tous ceux qui ignorent encore, eh bien que tu puisses véritablement, Seigneur, les amener à ta grâce, les amener, Seigneur, à considérer, Seigneur, que tu es le Dieu vivant et vrai. Alors révèle-toi et manifeste-toi. Et notre prière ce soir, c'est que tu sauves encore des milliers, des millions, Seigneur, d'hommes et de femmes, au nom de Christ, pour qu'ils puissent rentrer dans ton temple. Merci, Seigneur. Amen.